Bonjour, bienvenue dans Politique. Aujourd'hui, au service des sports. Bonjour Roxane Maracineanu.
Bonjour.
Vous êtes ministre déléguée au sport auprès du ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Vous avez mené auparavant une carrière de nageuse de haut niveau, nombreux titres et médailles. Je rappellerai notamment votre médaille d'or au championnat du monde. C'était en 98 à Perth en Australie. Première championne du monde française de natation, filles et garçons confondus. Et puis une médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000. Et c'était à chaque fois dans l'épreuve du 200 mètres d'eau. Alors combien d'équipes seront à l'arrivée du Tour de France le 20 septembre prochain? Les finales du tournoi de Roland-Garros vont-elles se gagner par forfait? Combien de journées de Ligue 1 et de Top 14 auront été jouées d'ici la fin de la saison? Voilà quelques-unes des questions qui se posent pour les grandes compétitions sportives alors que l'épidémie de coronavirus reprend de la vigueur. Le sport de haut niveau a été durement affecté pendant le confinement. Épreuves annulées, championnats arrêtés avant leur terme, absence de public au moment de la reprise. Paradoxalement, c'est au cours de cette même période que les Français ont exprimé le besoin de faire du sport pour se dégourdir les jambes et s'aérer. Alors, est-ce à dire que nous sommes un peuple de sportifs? Dans un article récent du Figaro, le président du Comité national olympique français affirmait que les jeunes d'aujourd'hui mettent 30 secondes de plus pour courir le kilomètre qu'il y a 50 ans. Alors, c'est peut-être une des raisons qui a conduit, lors du dernier remaniement, à repenser le périmètre du ministère des Sports. Celui-ci dépend désormais du ministère de l'Éducation nationale au service des sports. C'est donc le thème de ce nouveau numéro de Politique en votre compagnie, Roxana Maracineanu. Je voudrais d'abord qu'on aborde l'actualité. Actualité sportive, les grands championnats, notamment le football, le rugby, ont repris. Est-ce qu'il y a la possibilité, du fait de l'épidémie, qu'ils ne puissent pas aller jusqu'à leur terme?
Vous avez raison, toutes ces questions que vous venez d'évoquer sont celles qu'on se pose aujourd'hui avec les acteurs depuis le mois de mars, et c'est vrai que ce n'est pas des questions habituelles. Donc les acteurs sont sans cesse en train de nous proposer des scénarios qui vont de la tenue des compétitions à huis clos, évidemment de leur report, de leur annulation, mais surtout de leur tenue qu'on a envie de tous voir classique. Donc on est tous prêts à tout aujourd'hui. Le sport a repris, le sport doit reprendre comme toutes les activités de la société. On doit apprendre à vivre avec le virus et surtout à faire du sport avec le virus.
Alors il y a une immense compétition qui a lieu en ce moment, ça se passe plutôt pas trop mal, c'est le Tour de France, hein. D'habitude c'est en juillet, là c'est en septembre, avec là aussi peut-être cette épée de Damoclès qu'il y a au-dessus de l'épreuve, du fait des règles sanitaires. S'il y a deux personnes dans une même équipe qui sont détectées positives au coronavirus, eh bien ce qui se passe c'est que l'équipe est disqualifiée, donc on verra bien combien il y aura d'équipes à l'arrivée le 20 septembre.
Qui se vole évidemment, qui sera chargé de faire le sprint. On aperçoit Sam Bennett qui est pour l'instant en 5e position. Calabéouat est 6e.
Alors, Roxana Maracineanu, donc ministre des Sports. Sur le Tour de France, je ne vais pas vous demander de pronostics, ni là aussi si vous craignez qu'il y ait des défections. Mais je voudrais vous faire réagir à ce qu'a dit le maire de Lyon, Lyon qui va accueillir cette épreuve, le maire écologiste Grégory Doucet, qui dans une interview considère que le Tour est à la fois polluant et machiste. Est-ce que vous partagez son point de vue ou une partie de ce point de vue?
Bien sûr, le sport, qu'il soit automobile, qu'il soit de grandes manifestations comme ça qui font le Tour de France, évidemment, on doit faire en sorte de les rendre plus durables, qui s'encadrent mieux dans la politique de transformation écologique que nous suivons aujourd'hui et que nous promouvons au sein de ce gouvernement. On a un événement phare que sont les Jeux Olympiques en France en 2024, et c'est la première fois qu'un tel événement regroupe toutes ces dimensions, et notamment la dimension de la sobriété et du développement durable, du respect de ces notions-là, et on encourage tous les événements sportifs à aller dans ce sens-là. Le Tour de France, d'ailleurs, a fait d'énormes progrès. Aujourd'hui, ils ont des objectifs de développement durable à respecter. Ils le font déjà. Ça fait 2 ans qu'ils sont engagés dans cette démarche et on en voit déjà les effets.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi une question de taille? Le Tour de France est un grand barnum. Alors, ne parlons pas des Jeux Olympiques. Évidemment, c'est quand même l'épreuve majeure et qui se déploie dans tout un tas de domaines, notamment économiques. Est-ce qu'il ne faudrait pas, dans ce monde d'après dont on nous a tant parlé pendant le confinement, reconsidérer aussi peut-être la taille des compétitions, revenir à quelque chose, une approche peut-être un petit peu plus modeste de ce que doit être le sport de haut niveau?
Nous sommes déjà en train de mener cette réflexion avec les fédérations sportives. Un courrier que je leur ai adressé il y a maintenant 2 mois va les faire réfléchir sur l'organisation de leur compétition. D'une part parce que la crise sanitaire nous y contraint à cette démarche d'anticipation pour pouvoir, si jamais il y a des limitations de déplacement dues au virus, réimaginer les compétitions plus en local. Et d'autre part parce que c'était une démarche sur la limitation du carbone et des déplacements engendrés par les familles qui se déplacent sur l'événement ou par les sportifs eux-mêmes, d'imaginer des circuits de compétition plus de proximité avec une sélection plus forte qui fait que moins de personnes iraient vers les phases finales des compétitions.
Vous dites que vous avez envoyé cette lettre il y a 2 mois. Les fédérations ont eu le temps de vous répondre. Qu'est-ce qu'on vous répond ?
Non, pour l'instant, on y réfléchit. Il y a des démarches, j'allais dire, un logiciel qui existe au ministère des Sports partagé avec 3-4 fédérations de sport collectif qui permet déjà de réduire et d'optimiser l'emplacement de la compétition en elle-même en proposant le lieu optimum qui réduit les déplacements et donc la dépense carbone. Et aujourd'hui, ce sont des choses qu'on a envie de fixer comme objectif aux fédérations lorsque nous allons leur redonner la délégation de service public. C'est en cours, c'est la saison de l'attribution de ces délégations et ces contrats de délégation doivent être renforcés sur cette partie engagement dans la transformation vers le développement durable et également les questions d'éthique et d'intégrité qui, vous savez, me tiennent très à cœur.
On peut rappeler d'ailleurs, Roxane Maracineanu, que l'Euro 2020 de football, enfin qui devait donc avoir lieu en 2020, qui aura lieu en juin prochain, devait se dérouler sur plusieurs pays en Europe, ce qui conduisait là aussi à des aberrations en termes de déplacement plutôt que de concentrer tout dans un pays. On avait pu constater que certaines équipes, si elles allaient jusqu'en finale, auraient réalisé je ne sais plus combien de milliers de kilomètres, ce qui était un petit peu étonnant. En tout cas, peut-être que pour les fédérations, ça n'est pas la priorité des priorités en ce moment, avec les effets justement de cette épidémie de coronavirus. Il y a des compétitions qui ont été annulées, des fédérations, des clubs qui sont dans des difficultés financières. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, Roxane Maracineanu, justement, de l'état des finances du sport français eu égard à l'impact de cette épidémie ?
Comme tous les secteurs économiques, bien sûr, ils ont pâti de cette crise sanitaire. Nous les avons accompagnés au même titre que les autres secteurs économiques, puisqu'ils ont fait sans distinction partie de toutes les mesures mises en place. Chômage partiel, prêts garantis par l'État, fonds de solidarité, y compris le monde amateur, pour lequel on a fait un effort supplémentaire de 15 millions d'euros parce que c'est vrai qu'on a aidé les entreprises qui avaient des employés, mais les associations, c'est souvent des bénévoles qui sont impliqués et missionnés dans ces associations. Et on a aussi voulu les aider avec cette somme supplémentaire. Et aussi bien le secteur de la culture, de l'événementiel que du sport, jusqu'à la fin de l'année, continuera à être accompagné, notamment sur ces thématiques de jauge, de limitation de nombre de spectateurs. On sait que c'est un revenu économique important et de survie pour certains sports. Et voilà, comme ce nombre est limité, il y aura de la part de l'État un calcul qui sera fait pour compenser cette perte de jauge, aussi bien pour les acteurs culturels que sportifs.
Alors, la jauge, au moment où on enregistre, donc on est vendredi midi, elle est toujours, je crois, de 5000 personnes.
5000 dans les zones rouges, avec des dérogations possibles de la part des préfets. C'est à la main des préfets dans les zones vertes.
Mais est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt penser cette jauge par rapport à la capacité d'accueil d'un stade dans un stade qui peut accueillir 30 000 personnes ? On peut faire venir 15 000 personnes et respecter, enfin a priori, la distanciation physique.
On peut le faire si les espaces sont étanches entre eux. Ça va être le cas pour Roland-Garros, où il y a 3 espaces distincts avec un protocole qui fait que les gens ne vont pas se croiser. Donc on peut envisager des jauges inférieures à 5 000 sur chacun de ces espaces. Lorsqu'il s'agit d'un stade, même s'il y a plusieurs tribunes, la plupart du temps, le stade est rond. Donc on ne peut pas considérer que ce sont des espaces étanches et que les gens ne se croisent pas à la sortie ou à l'entrée au stade. C'est pour ça aussi qu'on maintient cette limitation de rassemblement à 5000, qui ne concerne d'ailleurs pas que le sport.
Quand on pense à l'impact sur le sport, on pense évidemment au sport de haut niveau, mais le sport français, c'est énormément de clubs, d'associations, c'est le sport amateur qui draine énormément de gens. Est-ce que vous avez eu vent, vous, au ministère, Roxane Maracineanu, de difficultés importantes, voire peut-être de clubs qui ont dû cesser leur activité à cause des difficultés de cette année ?
Le forum des associations a eu lieu la semaine dernière. Il faut qu'on ait le temps aussi de sonder le monde associatif pour voir s'il y a une baisse effective des inscriptions en association. Ce que les institutions et que les fédérations, le CNOSF nous font remonter, c'est leur ressenti par rapport aux inscriptions qu'ils avaient d'habitude dès le mois de juin, la prise de licence des clubs dans leur fédération, le fait que les clubs adhèrent aux fédérations. Effectivement, ce nombre semble en baisse aujourd'hui de 20%, 30%. Ça ne préfigure pas à l'avance finalement l'appétence des Français à retourner dans une association sportive. Et le rôle du ministère des Sports, c'est évidemment d'accompagner une activité encadrée par un entraîneur dans un cadre fédéral, mais c'est aussi d'accompagner la pratique sportive individuelle, en groupe, celle dont vous avez parlé tout à l'heure lorsque vous avez dit que pendant le confinement, eh bien, on avait retrouvé le goût du sport et la capacité, le temps aussi de refaire du sport.
Oui, alors justement, j'allais y venir. Alors c'est vrai qu'on peut comprendre qu'il y ait une baisse peut-être des adhésions du fait de la situation sanitaire, et en même temps, il y a un petit paradoxe quand on voit que pendant le confinement, le sport en tout cas était un prétexte pour pouvoir sortir aussi. En tout cas, est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous a surpris de voir cet appétit de sport aussi important pendant ces deux mois, il a fallu rester chez soi?
J'étais ravie que les Français répondent à l'appel finalement que nous avions fait au gouvernement, et le président de la République a été celui qui a insisté pour que l'activité physique et sportive fasse partie des 5 exceptions pour pouvoir sortir de chez soi. C'était pas le cas dans d'autres pays, donc c'est important, et c'est d'autant plus important pour nous parce que c'est aussi une manière de réaffirmer le rôle de l'activité physique et sportive, du bouger tout simplement, essentiel pour la santé des Français. Je crois que c'est très important au moment où nous vivons, nous devons faire face à un virus, de comprendre et de le dire aux Français que faire du sport, bouger, se déplacer à pied pour aller jusqu'à son travail plutôt que de prendre le bus ou une trottinette électrique, eh bien, c'est important pour pouvoir faire face et renforcer son système immunitaire.
De ce point de vue, vous diriez que vos collègues du gouvernement sont exemplaires?
Malheureusement,
ou est-ce que vous devez peut-être un petit peu essayer de les...
Ouais, dans ces temps, on n'a pas beaucoup de temps pour effectivement, malheureusement, aller vers des pratiques de loisirs sportifs. Mais moi-même, j'ai décidé de m'y remettre là pour faire des footings le dimanche parce que je sens que c'est important pour tenir le coup mentalement et physiquement.
Vous pourriez proposer de faire des séminaires gouvernementaux ou
il y a des matchs
matin,
de foot hein, le mardi, voilà, dans les salles à Bercy, on se retrouve pour faire du foot le mardi soir. C'est un petit secret, je vous le dis.
Alors, en quoi le sport est-il aussi un instrument politique? Bonjour Antoine Dulster.
Bonjour.
Eh bien, vous êtes justement parti sur les traces de quelques grandes voix qui ont marqué les politiques sportives.
Oui, puisque dès leur origine, ces politiques sportives se donnent des objectifs qui dépassent l'éducation physique. Au début de la Troisième République, la pratique de la gymnastique doit renforcer la cohésion nationale et préparer les corps et les esprits à toute éventualité militaire. Et c'est ainsi que l'éducation physique devient obligatoire en 1880 avec la loi Georges, avant même que l'école elle-même ne devienne obligatoire et gratuite. Dans les faits, cette instruction physique a du mal à s'imposer, mais le mouvement hygiéniste passe par là et les mentalités évoluent, notamment à l'époque du Front populaire, avec Léo Lagrange, le premier sous-secrétaire d'État au sport et à l'organisation des loisirs. Le régime de Vichy entend lui aussi s'appuyer sur l'éducation physique des jeunes, avec notamment les chantiers de jeunesse. La parenthèse se referme en 1944. Avec la libération, le sport doit participer de l'effort de redressement. C'est ce que dit le ministre de l'Éducation nationale, Marcel Edmond Négalène, ici en 1946.
Pour refaire la France, nous avons besoin de jeunes hommes et de jeunes filles vigoureuses et décidées, hardies et sages, au cœur et au corps solides. L'éducation physique, complété par l'éducation physique, civique, nous donnera ces bons serviteurs de la patrie.
Voilà, mais dans la pratique, encore une fois, les choses avancent peu. Il faudra en fait attendre les débuts de la Ve République pour que soient refondées les politiques sportives sous l'impulsion de Maurice Herzog. À l'origine de ce nouvel élan, un très mauvais bilan français au JO de 1960. La France en était revenue sans aucun titre olympique, inacceptable pour le général de Gaulle, même si les choses ne furent pas si évidentes que cela à mettre en œuvre, dixit Maurice Herzog lui-même, qui en reparlait en 1975.
Un pays ne peut pas toujours tenir le haut du pavé. Voilà. Ce n'est pas possible, à moins de moyens considérables, d'une mobilisation, disons-le, artificielle, et ce qui n'est pas le cas dans les démocraties. Même les États-Unis, qui ont des réserves considérables, ont des hauts et des bas en matière sportive. Personne ne doit s'en étonner.
Et du prestige de la France à ce qu'on a appelé plus tard la gestion du temps libre, il y a un gouffre, et pourtant ce temps libre des années Mitterrand et le sport seront réunis en 1983 dans le même ministère. C'est Edwige Avis, ministre des Sports à cette époque, qui en parle en 1983.
Edwige Avis, ministre du temps libre, de la jeunesse et des sports, est-ce que c'est un pléonasme ?
Ça n'est pas un pléonasme, c'est parfaitement complémentaire, parce que il est tout à fait vrai que lorsqu'on parle du ministère pour ses activités en direction des jeunes, il y a là énormément d'activités dites de loisirs. Le sport, je n'ai pas besoin de le dire, une bonne partie du sport est du sport de loisirs. Et le temps libre s'enrichit déjà de toute une action qui est menée au niveau de la jeunesse et au niveau des sports. Mais le temps libre, c'est quelque chose de plus large, à mon avis.
Et les exemples de ces dernières années seraient beaucoup trop nombreux. On a parlé aussi d'intégration par le sport à l'époque de Marc-Georges Buffet. En l'an 2000, à chaque époque, ses priorités et ses priorités s'affichent dans les politiques sportives.
Merci Antoine. Nous sommes en compagnie aujourd'hui de Roxana Maracineanu, ministre déléguée au sport. Est-ce que dans le rôle qui est le vôtre, vous diriez, comme un de vos prédécesseurs, que par la politique sportive, il s'agit de créer de bons serviteurs de la patrie?
Évidemment, chaque ministre hérite de ses prédécesseurs et tout ça s'est mené de main de maître par nos administrations qui nous font ressentir le rôle que le sport doit avoir aujourd'hui dans la société. Et c'est vrai que les orientations sont souvent les mêmes, pour les présidents, les gouvernements, de faire rayonner la France grâce au sport. Donc évidemment, le sport de haut niveau reste une de nos priorités. En mettant, en nommant et en missionnant Claude Onesta sur cette partie haut niveau au sein de l'Agence nationale du sport, j'ai choisi quelqu'un qui sait faire, qui a déjà remporté et pu faire briller la France au plus haut niveau international. Et je suis sûre qu'il mènera cette tâche à bien jusqu'aux prochains Jeux Olympiques et par la suite. Maintenant, vous savez que je suis très attachée à un État qui protège, à cet État qui s'attache beaucoup à l'éthique et intégrité. Nous avons vu beaucoup d'affaires sur les violences sexuelles, encore des affaires de dopage qui sont assez, souvent qui paraissent dans les médias et dont nous avons connaissance. Donc il faut que l'État veille. Et c'est vrai que quelqu'un comme Marie-Georges Buffet, qui a mis la question d'un État très veillant et vaillant là-dessus, il faut qu'on poursuive cette tâche aujourd'hui.
On va revenir d'ailleurs dans un instant sur cette question, alors en particulier des violences sexuelles. Mais puisque vous évoquez Marie-Georges Buffet, qui avait été très active sur le dopage, elle a réagi au moment de la réattribution, on va dire, du périmètre du ministère des Sports. Donc, je rappelle, vous êtes ministre délégué au sport auprès du ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. C'était pas tout à fait ce périmètre-là lorsque vous êtes arrivé au gouvernement. Marie-Georges Buffet, elle considère, et elle n'est pas la seule, que c'est une forme de relégation, que pour que le ministre des Sports soit vraiment puissant, il aurait fallu qu'il ait un ministère de plein exercice. Est-ce que vous n'avez pas un peu perdu de votre pouvoir au sein du gouvernement?
Alors vous imaginez bien, si je suis arrivée en position de ministre de plein exercice, ce n'était pas une volonté du gouvernement ou du président d'avoir cette notion de relégation. C'est moi qui ai fait la demande d'être dans ce grand ministère de l'éducation, de la jeunesse et des sports, parce que je veux porter quelque chose qui, je pense, est essentiel, et c'est justement la troisième mission et politique publique que je veux porter au sein de ce ministère, c'est d'arriver à faire plus de sport à l'école pour nos enfants. C'est l'héritage qui marquera, je pense, le passage des Jeux en France, et je sais que je ne peux le bâtir que main dans la main avec le ministre de l'Éducation nationale. Tout seul, un ministre des Sports, sauf à avoir un poids politique énorme, ce qui n'est pas mon cas. Aujourd'hui, j'ai jugé que je ne pesais pas assez dans la balance pour pouvoir proposer et répondre à la commande du président de la République de changer la place du sport en France. La changer au niveau de la santé publique, de dire que le sport est une solution pour toutes nos problématiques de santé et de prévention aujourd'hui. Et je travaille avec le ministre de la Santé en ce sens, même si en ce moment il est pris par d'autres sujets, mais nous avançons. Et ce qui me paraît essentiel, et on a 2 ans pour le réaliser avec Jean-Michel Blanquer, c'est faire en sorte que nos enfants, dès l'âge de 3 ans, puissent avoir cette éducation, ces fondamentaux, comme il l'affirme pour l'éducation, avec lire, savoir, lire, compter, écrire et respecter autrui. Nous en avons 2 au niveau du sport qu'on doit initier dès la maternelle. Le savoir rouler à vélo qui va permettre d'aller et d'éduquer la génération de demain aux mobilités douces. Et puis, l'autre aspect qui m'est cher, parce que je viens de ce sport, c'est la sécurité dans l'eau, en grande profondeur. Aujourd'hui, on connaît un phénomène de noyade important en France, tous les étés. Et il faut qu'on agisse dès le plus jeune âge pour habituer les enfants à être en sécurité en grande profondeur, là où ils n'ont pas pied. Et puis surtout, arriver à faire en sorte qu'on arrive à promouvoir une éducation un peu différente de ce qui est fait aujourd'hui, mettre en avant plutôt ce qui rassemble l'intelligible et le sensible plutôt que ce qui le sépare.
Quand vous dites plus de sport, est-ce que ça veut dire plus d'horaires, plus de cours de sport dans l'emploi du temps des élèves?
Des expériences partagées, travailler avec les instituteurs sur des moments où on rassemble l'apprentissage de la natation et du vélo, mais en lien avec ce qui va être proposé dans le programme de la maternelle du CP-CE1. Par exemple, un enfant va mieux comprendre ce qu'est la poussée d'Archimède au moment où il va sentir son corps sur lui-même que l'eau le repousse vers le haut et qu'il peut pas rester au fond d'une piscine à condition qu'il ait les poumons pleins. Donc arriver à faire le lien aussi à cet âge-là, c'est indispensable entre ce qu'on comprend lorsqu'on entend, lorsqu'on voit, avec ce qu'on ressent sur son corps. Et on pense, avec Jean-Michel Blanquer, que c'est un moyen aussi de travailler sur l'égalité des chances pour tous les apprentissages, de travailler sur le décrochage scolaire, de ramener, grâce au sujet sport, plus d'enfants à comprendre mieux ce que l'école leur propose.
Ce que vous dites me fait penser à un sketch des Inconnus où on voit un lycée ou un collège, je ne sais plus très bien, face à des difficultés financières et où le prof de PS se retrouve à donner un cours de philosophie. Mais finalement, dans ce que vous dites, Roxana Maraciné, à nous, c'est qu'il devrait peut-être y avoir davantage de capillarité entre ce qui relève des cours classiques de PS et puis ce qui relève des autres enseignements fondamentaux, c'est-à-dire la pratique sportive peut aider aussi à apprendre dans les autres matières.
Alors vous savez, la formation des professeurs de sport est une des formations les plus importantes et les plus intéressantes de notre système universitaire, celle qui est la plus à même de produire des enseignants de demain, les plus à même de prendre en compte toutes les différences de nos enfants. Donc effectivement, un prof de sport est tout à fait capable de tenir un discours de philosophie. Et aujourd'hui, c'est vers cet enseignement-là qu'on veut aller, avec des enseignants qui ont plus la maîtrise de leur propre corps et de la connaissance de ce que le corps et le mouvement peut apporter dans l'enseignement, et à l'inverse, des éducateurs sportifs qui effectivement sont à l'écoute de tous les enjeux d'éducation que nous avons aujourd'hui dans notre société.
Alors, puisqu'on parle de corps, ça nous ramène donc à ce sujet qui concerne le respect aussi de l'intégrité du corps, et notamment chez les jeunes sportifs et sportives, ce qui nous renvoie de fait aux affaires de violence sexuelle, affaires qui ont pris une ampleur assez inimaginable, suite au témoignage notamment de l'ancienne championne de patinage artistique, Sarah Abitbol.
On était prise en main par cet homme-là et effectivement, lors des étirements, et on se regardait toutes bizarrement, il se couchait sur nous et il en profitait, il restait très longtemps sur nous, les jambes écartées derrière notre dos, et c'était vraiment très 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 désagréable et très choquant. Personne n'ose rien dire. Un entraîneur, c'est quelqu'un d'influent, c'est quelqu'un qui a une emprise sur vous, c'est quelqu'un qui vous demande de faire des sauts, des pirouettes, vous l'écoutez, vous l'admirez. Donc pour vous, ça vous paraît normal. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Il faut que j'en parle, il faut que j'arrive à dire que j'ai été violée à 15 ans, et j'y arrive aujourd'hui. Il faut que ça devienne une leçon de courage.
Voilà Sarah Abitbol qui parlait de son ancien entraîneur. C'était sur France Inter le 30 janvier dernier. Roxana Maraciné, à nous, qu'est-ce que ça a changé, ce témoignage?
Des témoignages très émouvants qui sont récents et certains qui datent d'il y a longtemps et qui n'ont pas été entendus et écoutés. Donc moi, j'ai fait vraiment de ma priorité pendant les deux années qui viennent de passer de pouvoir faire en sorte que l'administration du ministère, les fédérations, les entraîneurs qui entendent ces témoignages, qui peuvent provenir aussi de cas qui se sont passés ailleurs que dans le club sportif, eh bien, ne se taisent plus, les fassent remonter, sachent à qui s'adresser, et une administration, une inspection générale qui traite aujourd'hui 220 cas depuis qu'on a mis en place une cellule d'écoute, une cellule d'accompagnement.
Qui les traite, c'est-à-dire qui les traite aussi d'un point de vue judiciaire aujourd'hui?
Alors, aujourd'hui, l'administration a un pouvoir administratif qui n'est pas judiciaire, mais qui a la possibilité, c'est ce qui vient de se passer hier, de transmettre à la justice. Et moi, je me réjouis que justement le travail de l'inspection générale, avec ce rapport qui avait été fait sur justement la Fédération française de patinage, et puis tout le traitement de tous les cas sur les territoires et en national qui nous sont remontés, donc c'est des cas anciens, hein, je le précise, qui n'avaient pas été traités à l'époque, qui aujourd'hui ont permis d'ouvrir une instruction judiciaire. Et je me réjouis que ces victimes, ces témoignages puissent être entendus enfin par la justice.
Alors, il y a le traitement de ces cas qui ont eu lieu, Roxana Maraciné, à nous, et puis il y a aussi tout le travail de prévention. Comment est-ce qu'on fait pour protéger les enfants, pour rassurer aussi les parents qui vont se retrouver à passer énormément de temps avec des éducateurs sportifs? Est-ce qu'il faut mieux contrôler, par exemple, le passé de ces éducateurs?
On doit tous agir à tous les étages. Il faut qu'on donne, nous aussi, les moyens aux fédérations de pouvoir agir, les moyens disciplinaires, de pouvoir intervenir et protéger les pratiquants. Il faut qu'on donne aussi de la formation aux éducateurs déjà diplômés, mais ceux qui sont aussi en formation, pour pouvoir détecter les signaux faibles des jeunes enfants qu'ils encadrent. Et évidemment, de pouvoir aussi les mettre en garde et leur expliquer ce qu'est la loi par rapport à des relations qui pourraient se nouer entre des entraîneurs et des sportifs qui seraient hors clou, hors la loi, et puis qui pourrait aussi, par des choses qui pourraient être acceptées, légitimées par l'entourage, par les parents, comme ce qui était évoqué là, puisque ce que Sarah décrit, ça se passe parfois en présence de parents qui ne trouvent pas ça anormal, puisque c'est un entraîneur qui, voilà, au nom de la performance, peut finalement amener des jeunes à faire beaucoup de choses que en dehors du sport, on n'accepterait pas, eh bien, qu'ils soient capables de détecter ce qui ne va pas et qu'ils puissent derrière le dire et qu'ils puissent être entendus quand ils l'ont dit et qu'on mène des enquêtes, qu'on mandate voilà, l'administration pour qu'elle aille intervenir, qu'elle ne laisse plus rien passer et que derrière, on pose systématiquement des articles 40 et qu'on laisse la justice se saisir de ces cas.
Quel est le pouvoir de la ministre des Sports par rapport aux fédérations? Il y a eu, alors en particulier dans le patinage artistique, suite à au témoignage de Sarah Abitbol, une espèce de conflit, on va dire, hein, entre votre ministère et puis l'ancien patron de cette fédération. Vous n'aviez pas les moyens, par exemple, de le destituer? C'est pas comme ça que ça marche?
Non, on peut effectivement avoir cette prise de parole, j'allais dire politique, qui effectivement, voilà, derrière ça incite aussi tous les responsables d'une fédération de se poser les bonnes questions. Et effectivement, le président en question a choisi de démissionner de son poste de président. En revanche, nous avons un levier qui s'appelle le contrat de délégation. Enfin, c'est ce pouvoir de délégation qu'on veut effectivement transformer par la loi en contrat de délégation où seront écrites noir sur blanc et on sera très attentif au respect de ce qui sera écrit dans ce contrat sur des points, on l'a évoqué tout à l'heure, d'engagement dans la transformation écologique de la pratique sportive et puis aussi dans ce respect de l'éthique d'intégrité et du rôle des fédérations pour amener aussi nos jeunes vers la citoyenneté républicaine.
Une toute dernière question, Roxana Maracineanu, peut-être un peu plus personnelle. Vous êtes née en Roumanie, vous êtes venue en France, vous n'aviez pas tout à fait 10 ans, je crois. Je ne sais pas si vous aviez commencé la natation et la compétition à l'époque où vous étiez en Roumanie, mais est-ce que la pratique du sport que vous avez connue, les Ceaușescu, enfin, était au pouvoir en Roumanie, c'était façon de là aussi de mettre en avant le sport pour faire valoir la gloire de la nation. Est-ce que vous gardez des souvenirs de cette période-là? Est-ce que c'est très très différent de ce qui existe aujourd'hui en France?
C'est vrai que j'ai un passé et une histoire qui me permettent justement de comprendre combien c'est important que le sport joue ce rôle d'intégration de tous, que le sport puisse être un droit pour tous les Français et que grâce au sport on puisse accéder et à la citoyenneté française et au fait de trouver sa place dans notre société. En Roumanie, effectivement, il y avait un lien très fort entre ce qui se passait à l'école, ce qui se passait dans le cadre sportif. Il y avait un système où on faisait école le matin, sport l'après-midi, activité culturelle les après-midi. C'est un système qu'on promeut sur certains territoires. Avec Jean-Michel Blanquer, on aimerait aller vers des configurations comme celle-ci, notamment dans les cités éducatives, les 80 endroits en France où il est donné priorité au lien plus fort entre les acteurs de la culture, du sport et de l'école. Et ce sont des projets qui, évidemment, moi, me parlent beaucoup parce qu'encore une fois, c'est important pour nous de mettre en avant ce qui ne sépare pas, ce qui ne sépare plus, ce qui concerne l'esprit et ce qui concerne le corps.
Eh bien, merci beaucoup, Roxana Maracineanu, ministre déléguée au sport, d'avoir participé à ce nouveau numéro de Politique. Une émission préparée par Antoine Dulster, réalisée par Thomas Jost avec la prise de son Eduardo Rubinstein. Émission que vous pouvez réécouter et télécharger sur franceculture.fr.